Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Eh ben, je crois que c'est bon. On est en train d'enregistrer. Je t'entends super bien. Je te vois là avec derrière les banderoles Eurosport et les Jeux Olympiques. On est dans le contexte. Ouais. Super. Salut Ophélie. Comment vas-tu?
Bonjour. Ben écoute, ça va bien. Ça va bien. Merci. Et toi?
Ben écoute, super. Plein de bonnes énergies. Et puis quand je rencontre quelqu'un qui a le sourire comme toi et qui est plein, qui dégage aussi plein de bonnes vibes, ça ne peut qu'aller mieux. Donc donc écoute, je suis sur un petit nuage cet après-midi. Donc trop bien. Là tu sors d'une journée à commenter, c'est ça?
Oui, absolument. J'ai la chance d'avoir été contactée par Eurosport et donc je commente les Jeux Olympiques de Pékin Alors, je suis à Paris, mais par contre, on est branché sur les horaires chinois. Donc, c'est un peu bizarre, là, la vie en ce moment. On se lève au milieu de la nuit, je vais me recoucher vers 9h le matin. Et là, tu vois, je me suis réveillée, j'ai pris des céréales et je suis en face de toi. Tout ça est un peu étrange, mais, mais ça va.
Bon, alors, pour préciser, effectivement, on est en fin d'après-midi. du coup, donc t'as un rythme un peu coupé, tu dors plusieurs fois par jour, c'est ça?
Oui, je me fais deux nuits de 4 heures parce que j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil.
Ok. Ouais, mais ouais, c'est... Et tu tiens le coup?
Ça va, ça va. J'essaie de faire un petit peu de sport, une petite activité aussi quotidienne. Tu vois, ça permet de garder un petit rythme et la forme et d'aller s'oxygéner. Non, ça va. Et puis, tu sais, c'est une fois tous les 4 ans. Hein, donc, c'est 15 jours. Ça va.
Ok.
C'est cool.
Ouais, bah écoute, écoute, non, très cool. Moi, tu sais, j'ai jamais essayé. Pourtant, je suis un peu un maniaque du sommeil, tu vois. Je dors avec un bandeau, des boules qui est. Enfin, j'ai vraiment besoin de bien dormir, sinon je suis un peu grognon. Et j'ai jamais essayé justement de séparer mon sommeil. Ça me fait trop peur. Tu vois, alors que j'ai lu plein de bouquins qui disent il faut essayer, c'est possible. Tu peux faire du sommeil polyphasique.
Si tu te lèves pour un truc cool, bon bah ça passe bien, tu vois. Là c'est le cas, donc il y a pas de souci.
Bon bah trop cool, trop cool. Bon, écoute, on pourra reparler. Je suis très curieux effectivement de savoir un petit peu les coulisses des commentaires pour ces super jeux en plus qui se passent super bien avec une belle équipe de France, des médailles. Plein de belles histoires à raconter, donc je suis curieux un peu de voilà qu'on puisse rentrer un peu dans les coulisses de tout ça, et je pense que tu as peut-être quelques anecdotes à nous raconter. Mais comme je te le disais en préparation, il y a une question traditionnelle sur ce podcast, c'est de commencer par l'enfance et de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors écoute, mon premier souvenir de sport, c'est en fait les entraînements de basket de mon père, qui était entraîneur-joueur. Quand moi je me rendais compte, il était que joueur avant, hein, tu vois, mais j'étais trop petite pour m'en souvenir. Et j'ai vraiment le souvenir de moi en train de jouer dans les cordes et les gros tapis de la salle polyvalente où il s'entraînait. Et d'aller des fois en scred bouger ses petits magnets sur ses plans de match. Voilà, c'est un peu le premier souvenir que j'ai concernant le sport.
Ok, donc c'était pas forcément à l'aider, mais c'était plutôt pour lui faire des petites blagues et jouer avec ce que tu voyais, quoi.
Ouais, et franchement, c'était chouette parce que bah, les joueurs étaient cool et j'étais un petit peu la mascotte, donc c'est des bons souvenirs. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai le sport comme quelque chose d'hyper naturel et de normal, en fait, dans une vie.
Ouais.
Tu vois, c'était un tout. Et le sport en faisait partie, forcément.
Ouais, ok. Ouais, mais j'imagine que tu devais être dans une culture très sportive, dans une famille. Enfin, on dit tout, les sports collectifs ou même les sports individuels, mais il y a souvent une famille qui se crée autour des athlètes qui s'entraînent ensemble. Et toi, tu étais du coup accueilli dedans. Ouais. Il me semble que ton père est hongrois, c'est ça, non? Ou...
Ouais. Oui, tout à fait. Il te semble bien. Mon papa est hongrois. Okay. Il s'est sauvé de la Hongrie. Il a d'abord été réfugié politique en Belgique, puis en France, où il a rencontré ma maman.
Ok, d'accord. Trop belle histoire d'amour. Bon, je vais pas poser de questions privées. Ça leur appartient. mais je vais poser une question bête. T'as joué un petit peu au basket ou ça t'a donné envie d'en faire?
Eh ben, écoute, j'ai entendu toute mon enfance. Ah, t'es grande, tu vas faire du basket comme papa. Eh ben, du coup, je faisais tout sauf le basket de papa. Tu vois. Donc, je me suis retrouvée plutôt à suivre mes copines qui faisaient de la danse classique, de la gymnastique. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et je trouvais pas trop ma place en fait dans ces sports. Et puis voilà, la vie a fait qu'à un moment on a déménagé, mes parents et moi, et vers l'âge de 11 ans on est venu vivre à la montagne. Et jusque là j'étais une chanceuse petite touriste qui allait à chaque vacances d'hiver faire du ski à la neige. Et là on a déménagé et ça a été génial parce que bah, j'ai pu m'inscrire au ski club et parce que j'ai toujours passionnément aimé le ski. Et là, okay, du coup voilà, je me suis inscrite au ski club et c'était parti.
Ok, donc tout part de là et part un peu de un refus de faire comme papa, quoi.
Ouais, mais j'ai bien fait de refuser parce que en arrivant à l'Alpe d'Huez, il n'y avait plus d'équipe de basket, donc j'aurais dû de toute manière me réaiguiller. Mais c'est vrai que voilà, ouais, j'avais vraiment pas envie de suivre les traces de mon père, bien que je l'admire, mais j'avais envie de faire ma route, quoi. Et, ouais. Et ça, toute petite, c'était complètement inconscient, mais.
C'est marrant parce que, en plus, là, je demandais à un copain qui écoute beaucoup le podcast et je lui dis, ouais, est-ce que t'as des idées de questions un peu à mettre dans ma boîte à questions, tu sais, un peu pour les questions un peu de fin d'interview et tout. Et il me disait, ouais, tu devrais demander quelle est la phrase qu'on te dit souvent et qui te saoule le plus. Et du coup, je pense que pour toi, c'était celle-là, quoi. Tu demandes, tu devrais faire du basket. Ok, très chouette. Et c'est un avantage ou un désavantage dans le ski d'être grand. Au contraire, c'est vachement bas sur les appuis, donc il faut avoir un centre de gravité assez bas. J'en sais rien.
Mais... Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y avait un certain gabarit à l'époque, tu vois, qui correspondait vraiment aux skieurs. Quand on avait des skis droits, c'était des personnes vraiment au physique puissant, très large, voire même un peu ramassé. Et depuis l'arrivée des skis polyvalents, on se rend compte que tout les morphotypes peuvent percer, et on en a eu une magnifique démonstration avec notre nouveau champion olympique de slalom, hein, Clément Noël, qui est vraiment longiligne. Et à côté de ça, tu vois, on a un skieur autrichien qui a vraiment marqué son époque, qui s'appelle Hirscher. Je trouve plus son prénom, au secours. Et en tout cas, et lui qui est pour le coup plus petit, plus tonique, qui aurait un physique un peu à l'ancienne. Mais les deux sont des maestros sur les skis. Côté femme, c'est exactement la même chose. Donc non, je crois que aujourd'hui, on a la chance d'avoir tous les gabarits qui peuvent percer.
Ok, ouais. Écoute, hyper intéressant. J'avance un petit peu dans le temps et je t'avoue que il y a quelque chose qui m'a surpris aussi, c'est que t'avais commencé avec l'équipe, ou en tout cas sous la nationalité hongroise, et que t'as fait tes premiers Jeux Olympiques, si je dis pas de bêtises, en ski alpin, du coup, avec la nationalité de ton papa.
Exactement.
Et tu vois, et ce qui est... Je savais pas du tout ça de toi, tu vois. Autant j'aime beaucoup les sports, j'aime beaucoup les X Games, tu vois. Moi, j'ai fait beaucoup de roller et de skateboard quand j'étais petit, donc je suis un petit gamin des X Games, tu vois. J'avais des posters de Ty Chris, Tony Yeo dans ma chambre, et tu vois. Et forcément, bah quand les X Games d'hiver sont apparus, tu vois, moi je regardais, j'étais à fond, donc j'étais découvert comme ça, tu vois. Et je savais pas du tout que t'avais eu en fait une première vie dans le sport, dans un autre sport déjà, et en plus sous une autre nationalité. Pourquoi t'as commencé déjà avec
Alors en fait, comme je t'ai dit, on a déménagé à l'Alpe d'Huez, j'ai commencé à faire du ski, et puis là, ça fonctionnait pas trop mal. J'ai passé les étapes et je suis rentrée dans l'équipe régionale. Et arrivée à l'équipe régionale vers l'âge de 16 ans, en fait, ça commençait un peu à coincer avec le coach. Ça passait pas très bien. Moi, je pense que j'avais pas forcément les codes. Hein. J'arrivais de Corse. j'étais dans un petit cocon, tu vois, du ski club de l'Alpe d'Huez. Et là, j'arrive et tout de suite, en fait, je sais pas, ça collait pas. Bref. Et du coup, un jour, je rentre de stage et je dis à mon papa, écoute, j'adore le ski, je vais continuer d'une manière ou d'une autre, mais pas dans cette équipe et pas comme ça, quoi. Et du coup, mon père a eu l'intelligence et la vista de me dire, écoute, réfléchis bien, tu as la chance d'avoir une double nationalité, est-ce que ça te tente ? Du coup, c'était quand même à réfléchir parce que ça voulait dire me déscolariser, passer par le CNED. Ça voulait dire partir tous les hivers en Autriche, là où il y avait le camp de base de la Hongrie. Enfin voilà, ça impliquait quand même des petits bouleversements dans la vie de tous les jours. Mais finalement, aujourd'hui, je te dis ça avec le recul, mais sur le coup, la décision, elle a été super facile à prendre parce que je sentais que j'avais encore tellement envie de skier que rapidement, je lui ai dit, allez, ouais, ok, feu, c'est parti. Et voilà. Et voilà comment, en fait, je me suis retrouvée à faire l'Inhammer à l'âge de pas tout à fait 18 ans pour la Hongrie, donc le pays de mon papa. Okay. Mais j'ai eu une deuxième vie encore sportive parce que après ça, je suis partie sur le Pro Tour aux États-Unis. Ouais. Et c'était encore un autre format et c'était encore une autre manière de vivre le ski, puisque là c'était vraiment open. On arrivait, paf, on payait notre inscription, tout le monde avait le droit de courir. C'était un format parallèle avec des sauts. Déjà ça tendait un petit peu vers le ski cross et c'est un format qui m'allait mieux. Et j'ai vraiment découvert ce truc et voilà, ça a été un peu une deuxième vie sportive.
Ok. Et à quel moment tu, ouais, du coup, il y a une petite phase de transition où tu te dis, ok, peut-être le ski alpin assez classique, tu vois, sur du super G, de la descente ou du slalom, ça te plaît pas trop. Qu'est-ce qui te donne envie d'aller sur justement des disciplines plus un peu différentes, un peu plus castagnard où il faut un peu plus risqué aussi, tu vois.
Alors là, franchement, la bascule ski alpin pro tour, elle a été hyper facile, je vais te dire. J'aime le ski alpin. D'ailleurs, je fais encore des fois des slaloms et des géants et tout parce que vraiment, je kiffe ça. La bascule, elle a été hyper simple. Je vais t'expliquer. Pour concourir, en fait, en FIS, moi, je bossais tous les étés. Je faisais des petits jobs. J'ai été vendeuse de fringues. J'ai fait des ménages. J'étais à l'entrée de la piscine municipale. Enfin, j'ai fait tous ces petits jobs d'étudiants. Et en fait, c'était pour soulager un peu mes parents parce que le ski, ça coûte cher.
Ouais, ça coûte cher. Beaucoup de voyages.
Exactement. Ouais. Et voilà. Et puis j'avais des copains qui étaient partis sur le pro tour et qui faisaient exactement la même chose que moi, sauf qu'ils voyageaient aux US et que bah c'était un peu la belle vie, tu vois. Ils se régalaient et en plus à l'arrivée des courses, au lieu que ce soit eux qui faisaient des chèques, ben ils les encaissaient les chèques. J'ai trouvé le principe génial. J'ai dit mais moi aussi je veux faire ça parce que ça me permettait en fait de continuer vraiment ce que j'aimais, à savoir ce qui voyager, découvrir et puis surtout m'émanciper financièrement de mes parents, quoi.
Ouais.
C'est tout con. Oui. Hein.
Non, mais merci d'en parler parce que tu vois, des fois, effectivement, tu vois, l'argent peut être un peu un tabou et notamment un peu dans le sport, des fois, et tous les sports sont pas pareils, tu vois, à ce niveau-là. Et donc, tu fais bien de le dire et il y a un peu d'opportunisme, mais toi, t'avais l'air de kiffer et t'as réussi et en même temps, tout le mérite te revient parce que t'as bossé et t'as fait le maximum pour pouvoir continuer ta passion, quoi. Donc, c'est trop beau, tu vois, c'est trop beau. Et après, comment tu passes du coup du pro tour à un peu au ski cross? Ça se fait aussi naturellement? C'est pareil avec des...
Oui, alors ça se fait en deux temps parce qu'après le pro tour, en fait, on m'a
changé de nationalité à ce moment-là.
Ah oui, j'étais. En fait, si tu veux, moi, je suis née en France. Toute ma culture est française. Je suis allée à l'école française. Donc je sais que j'ai mes racines en Hongrie, mais franchement, je suis ultra cocorico, quoi. et du coup, ouais, naturellement au pro tour, je me suis inscrite pour la France parce que voilà. Et comment ça s'est passé? Alors, on m'a proposé d'être coach au ski club de l'Alpe d'Huez, poste que j'ai accepté parce que j'avais l'impression que mon expérience pouvait vraiment servir aux gamins et je trouvais ça vraiment génial de pouvoir leur transmettre. Et j'ai été comme ça 3 années entraîneur au ski club de l'Alpe et ça a été génial. Et pendant ces 3 années, en fait, j'ai été maman aussi. Ouais. Donc, ma fille est née en 99. Et à peu près à cette époque-là, je regardais la télé et comme toi, j'ai vu les X Games en fait. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc et tout. Enfin, tu vois, ça m'a interpellée. Et puis l'occasion s'est présentée pour que je puisse faire un SAP Salomon Cross Max aux Deux Alpes au mois de novembre. Et du coup, j'y suis allée. J'étais morte de trouille après l'inspection du parcours. là, le papa de ma fille me dit « Non, mais alors écoute, c'est bon, on n'habite pas loin, viens, on prend un chocolat chaud et on rentre. » Ça m'a vexée à mourir. Je me suis dit « Non, mais il me croit pas capable, en fait. » Et là, un peu, tu sais, la bouche en cul de poule, je le regarde, je lui dis « Alors, sache un truc, hein, toutes les courses auxquelles j'étais inscrite, j'ai pris le départ. » Et je pars comme ça, un peu vénère, prendre la pioche sur le glacier des Deux Alpes. Et là, je me dis, ok, ego hyper mal placé, t'as ouvert ta gueule, maintenant il va falloir assumer et surmonter. Et j'ai fait ce premier entraînement en étant liquide, littéralement liquide. Et, et en fait, ça s'est bien passé. ça a été même mieux que ça. Ça a été un coup de foudre. J'ai coupé la ligne d'arrivée en bas de ce premier entraînement et je me suis dit, oh, mais ça, c'est tout ce que j'aime. Voilà, okay. C'est tout ce que j'aime. Et du coup, voilà, j'avais mis le doigt dedans. Ça y est, le ski cross m'avait complètement séduite. Accro. Et à partir de là, ouais, accro, vraiment une révélation. Et à partir de là, j'ai cette année-là, c'était un petit peu compliqué parce que j'étais engagée encore comme entraîneur, mais j'ai réussi à me libérer, à faire la première Coupe du Monde qui avait eu lieu à Tignes, à faire les X Games, mon troisième départ de ski cross, te plaît, c'était les X Games. Wow. Je suis arrivée là-bas, bah pareil, je me suis reliquidifiée, des caméras. Mais par contre, j'ai adoré les caméras partout, les gros concerts dans l'air d'arrivée, cette espèce d'énergie de malade, de se dire que le sport, c'est du show, c'est du plaisir. Et tu vois, on était loin de la mentalité européenne où c'est souffrance. Voilà, tu vois, faut souffrir pour gagner. Non, là, faut travailler pour gagner. Mais punaise, faut prendre son pied. Et ça, j'ai adoré. Je me suis complètement retrouvée là-dedans. Et c'est, voilà, là, c'était fini. Et après, c'est parti pour 15 ans.
Ah, mais génial, mais qu'est-ce que l'histoire est belle. Merci de l'avoir raconté. Le fait de la lire, d'aller chercher des infos, tu vois, je me doutais de tout ça, mais le fait de te l'entendre raconter, c'est encore plus stimulant, je trouve. Et c'est dingue, tu vois, de tomber un peu, je vais dire par hasard, tu vois, mais sur son sport, tu vois, après.
C'est un peu ça, hein, t'as raison, c'est un peu par hasard. Hein.
Ouais. Et en plus, tu vois, je te félicite. On se le disait juste avant de commencer l'interview. Il y a pas beaucoup de mamans athlètes de haut niveau. Toi, t'étais maman à ce moment-là. Tu te lances. Ça t'a jamais. Tu l'as toujours vu comme une force, ta maternité, tu vois, dans le sport de haut niveau. Là où tu vois, ça peut. Moi, j'entends un peu des amis autour de moi, des amis femmes, qui justement parce qu'elles sont mamans, se mettent des freins. Et je suis à essayer de les engueuler pour leur dire, mais au contraire. Tu devrais faire des choses encore plus fortes, tu vois, le fait d'être maman, ça va te renforcer. J'ai l'impression que toi, en tout cas, tu l'as vécu comme ça, tu vois. T'as jamais eu, je sais pas, un peur avant sur une ligne de départ ou penser peut-être à ta fille en te disant, ah, c'est peut-être pas bon là, à ce moment-là, ou je le sens pas. T'as jamais eu ce sentiment-là?
Alors, honnêtement, sur la ligne de départ, non. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'athlète qui part, tu vois. Ouais. Et en fait, je faisais tout pour être prête. Et pour justement ne pas être en galère et ne pas me faire mal. Ouais. Après, je savais très bien qu'il fallait aussi un petit peu la bonne étoile. Mais en tout cas, je mettais vraiment toutes les chances de mon côté, tu vois.
Ouais.
Et oui, ça a été une force incroyable. Ça a été une force incroyable parce que déjà, pour toutes les personnes qui sont parents, quand tu prends ton gamin dans les bras, je pense que tu découvres l'amour avec un grand A, en fait. Mmh. Et oui, ça te change, mais ça te change en mieux, quoi. Et je me suis dit, ce petit être et moi, voilà, on est liés pour toute la vie. Et ce petit être et moi, on va jamais se juger, on va juste s'aimer pour ce qu'on est, en fait. Et de se sentir ça, c'est déjà, c'est un sentiment extraordinaire. Ensuite, du coup, quand je partais faire mes compétitions et que je laissais donc ma fille, qui est quand même juste la personne la plus importante au monde, ouais. Je vais te dire.
Il y en a avoir beaucoup. C'est un sport qui fait beaucoup voyager. Tu vas aller aux quatre coins du monde.
Ouais. Des fois, je claquais la porte et je savais qu'on allait se retrouver dans 5-6 semaines. Tu vois, ouais. C'est long hein, quand ton enfant est petit. Et ben, tu vois, quand je claquais cette porte, si tu veux, je me disais, alors, je vais pas laisser ma fille pour rien. Ouais. Et je peux te dire que j'avais la motive, alors qu'il fasse beau, moche, que le tracé soit beau ou pourri ou n'importe quoi. Et j'étais là en mission et pour pouvoir rentrer à la maison et regarder ma fille droit dans les yeux et lui dire, bah voilà, tu vois, maman, elle a tout donné. Enfin, je t'ai pas laissé pour des cacahuètes. Moi, ça me décuplait l'énergie, ça me décuplait ma force et ma motivation. Elle a été vraiment une source d'inspiration énorme, énorme. Ouais.
Ok. Et jamais, t'as jamais eu peur, tu vois, j'ai entendu ça d'autres athlètes de haut niveau, notamment qui pratiquent des sports un peu extrêmes, dire qu'il y a quelque chose qui a changé quand ils sont devenus parents, c'est de peut-être avoir un petit peu moins envie de prendre des risques. Toi, c'est jamais quelque chose, c'est quelque chose que t'as ressenti ou au contraire, bah, vu que de toute façon, tu as commencé le ski cross en étant maman, bah,
ouais,
comme
c'est ça.
Ça.
J'ai pas vu de changement. J'ai pas vu de changement. Non, mais ce que tu disais tout à l'heure par rapport à tes amis mamans qui s'empêchent de vivre des choses, moi, je crois que ce que je voulais vraiment dire à ma fille, c'était de suivre sa route. C'était d'assumer ses passions et de pas avoir à se justifier. En fait, la justification, elle est juste que c'est ça qui te nourrit, c'est ça qui t'attire et c'est là où tu sens que tu t'épanouis et que ça te rend meilleur. Et il n'y a pas à se justifier ou à essayer de rentrer dans des boîtes si elles te correspondent pas ou à des espèces d'images ou de stéréotypes que la société a fabriqué. Si franchement, on rentre pas dans ces moules, mais alors il faut pas rentrer dedans, quoi. Et ça, c'était vraiment un message que je voulais transmettre à ma fille, et plus que des mots, eh ben, j'ai voulu lui montrer.
Ouais. Non, mais c'est hyper chouette, et tu fais vraiment bien de le dire, de pas forcément vouloir rentrer dans des moules, quoi. Et Dieu sait, je pense qu'en tant que toi, sportive, en plus maman, on a dû vouloir te foutre dans des cases à plusieurs moments, et peut-être à ton insu, mais c'est vrai que tu vois, on vit dans une société qui est tellement normée, dans laquelle on essaye de mettre des raccourcis partout, de mettre tout le monde dans des cases pour aller plus vite, et au final, on subit un poids, tu vois, par rapport à ça, et notamment sur la parentalité, tu vois, ça c'est...
Mais alors, tu vois, moi, j'ai pas fait exprès, mais j'ai pas fait exprès, j'ai pas un esprit rebelle de folie, quoi, mais je me suis toujours retrouvée à contre-temps, c'est-à-dire que quand je suis arrivée à la montagne, tu sais, j'avais l'accent corse, j'étais un peu trop corse pour les montagnards. Ensuite, j'étais trop hongroise. Okay. Tu vois, après, quand j'ai fait le pro-tour, on était un peu des chasseurs de primes. Quand j'ai été coach et maman, j'étais trop jeune, j'étais maman à 23 ans, tu vois, donc j'étais trop jeune, ok. Après, je suis partie dans un sport qui a priori n'avait pas d'avenir, était une voie de garage, personne n'a compris, et enfin pour finir, j'étais trop vieille parce que j'ai fini ma carrière à 42 ans et on me disait que j'étais trop vieille. Bref, j'ai pas fait exprès, mais j'étais rarement dans le bon move en fait, sauf que, ben désolé les gars, en fait. Moi, j'ai adoré mon parcours, quoi. Et franchement, ce sera à refaire. Je suis pas sûre que je changerai grand chose.
Mais t'as bien raison. Mais t'as l'air hyper alignée comme femme, tu vois. Et je trouve que c'est, t'entends de dire tout ça, je trouve que c'est hyper inspirant. Là, je m'en nourris plein. Et tu vois, moi, je suis exactement, enfin, ça résonne d'autant plus en moi parce qu'en ce moment, je me pose des questions sur où est-ce que je vais, où est-ce que machin. Et je rencontre des gens qui me disent, tu devrais faire ça, tu devrais comme si. Et je suis là, en fait, si tu me dis ça, c'est qu'il faut absolument pas que je le fasse.
Donc, en fait, au fond de toi, tu sais.
Ouais, exactement. Au fond de toi, tu sais. Tu fais très bien de le dire, ouais. Tu fais très bien de le dire. Peut-être dernière question un peu sur la parentalité, mais t'as eu besoin d'une réathlétisation. En fait, j'en ai parlé. C'est un sujet, j'en avais parlé il y a quasiment un an, jour pour jour, avec Cléopâtre Darleu, qui est la gardienne de l'équipe de France de handball. Tu vois.
Ouais, tout à fait.
Je sais pas si vous connaissez, mais elle.
Non.
C'est une femme géniale.
Je la suis, bien sûr.
C'est une femme géniale et tout. Et il y avait quelque chose qui m'avait surpris, c'est que malgré le fait qu'elle soit en équipe de France, championne du monde, championne olympique, elle a dû beaucoup. Enfin, elle a dû faire beaucoup, beaucoup de choses toute seule sur sa réathlétisation. D'ailleurs, je sais pas s'il faut parler de réathlétisation après une grossesse, tu vois, mais, et au final, elle est revenue en 3 mois. Et elle me dit, waouh, en fait, le corps humain, il est magique, il peut faire tout ce qu'on veut, mais elle allait chercher beaucoup d'infos à droite, à gauche. Est-ce que toi, ça avait été un sujet pour toi de vouloir revenir très vite ou au contraire de prendre ton temps?
Alors moi en fait quand j'ai eu ma fille j'étais entraîneur à ce moment-là donc j'étais pas athlète tu vois mais le fait d'être entraîneur j'avais le groupe des jeunes hein, des 10-11 ans donc en fait t'es vraiment devant et t'es vraiment la silhouette c'est un âge où ils copient vachement et du coup j'avais vraiment envie de leur donner une jolie silhouette et un bel engagement etc. J'ai skié jusqu'à 7 mois en fait sur les glaciers Ouais, ouais. Alors, j'arrivais pas à faire toutes les démos. Alors, des fois, j'en prenais un et puis il me servait un peu de poupée. Tu sais, je faisais entrée de virage, milieu de virage, fin de virage. Et tu sais, je les plaçais comme ça, comme une scène, en fait. C'était trop rigolo, on s'amusait bien. Et un peu à l'image de Cléopâtre, c'est revenu hyper vite. Mais il y a vraiment des exercices bien spécifiques, hein, pour nous les femmes, si on veut ne pas être embêté par la suite par les fuites urinaires. Ouais, exactement. Et du coup, là, franchement, faut filer chez un bon kiné, il faut vraiment travailler tous ces muscles profonds, travailler avec la respiration. C'est pas forcément des litres de sueur, mais c'est vraiment de la concentration, de l'écoute à l'intérieur pour vraiment retonifier tout ça et puis pas être embêté par la suite, en fait.
Ouais. Ok, mais non, mais écoute, tu fais bien de le dire, et effectivement, on peut avoir des carrières sportives incroyables en étant maman, et c'est en aucun cas un frein, et au contraire, je pense que le corps humain s'adapte, surtout le corps féminin est magique, quoi.
Donc, le corps féminin est fait pour faire des bébés. Donc en fait, en faire un, alors certes c'est extraordinaire, magique, mais on est prévu pour ça. Donc on n'est pas malade quand on est enceinte, et on n'est pas diminué quand on vient d'accoucher. On est juste, on passe par des phases qui sont différentes d'un état normal, c'est clair, hein. Mais en attendant, tout ça est super naturel. Il faut pas en avoir peur du tout. Il faut juste prendre les choses avec logique et simplicité, bien souvent, et ça marche bien, hein.
Ouais, bien sûr. Mais tu vois, je suis très content de pouvoir parler de ça, parce que j'entends tellement d'atrocités. Tu vois, j'ai entendu une championne olympique me dire hors antenne, hein, tu vois, que elle a perdu un sponsor après avoir été maman. D'autres qui m'ont dit que effectivement des entraîneurs voulaient plus trop les entraîner, ou qu'ils leur disaient qu'elles allaient jamais revenir au haut niveau, parce que avoir un enfant après 27 ans, tu reviens pas au haut niveau. Et je trouve que c'est tellement des foutaises, et tu vois, et je trouve que, et tu en fais partie, de tous ces exemples qui montrent qu'en fait on peut être encore plus fort, encore plus forte en étant maman, ou même en étant parent. Tu vois, il y a aussi des papas à qui pour qui c'est vertueux. Oh, c'est peut-être plus psychologique, mais aussi physique, et je pense hormonal. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr.
Je pense aussi, ouais.
Ouais, mais tu vois, et je suis vraiment content qu'on puisse parler de ça et de libérer un peu la parole là-dessus, parce que on entend encore beaucoup de remarques, peut-être parfois un peu machistes, misogynes, qui vont à l'encontre de ça, et qui sont des bêtises, tu vois.
Oui, mais regarde, l'histoire leur donne tort, en fait, et on est super nombreuses à en être les exemples. Donc il faut que, ouais, c'est vrai que c'est dur d'être pionnier, hein, et parce que voilà, il faut que les mentalités changent, mais je pense que quand même le mouvement est bien enclenché, okay. Et les regards ont changé.
Non, bah cool. Mais écoute, on touche du bois, et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est en train d'évoluer. Je me posais une dernière question d'ailleurs, qui me vient, vu que toi t'avais un petit peu grandi pas en opposition avec ton père, ça serait extrapolé de dire ça, mais de absolument pas vouloir faire de basket. Qu'est-ce que tu dis à ta fille quand elle te dit, si elle te dit qu'elle a envie de faire du ski ou du ski cross? Est-ce que tu lui dis ne fais surtout pas la même chose?
Non,
moi je me posais la question parce que tu vois, mon deuxième, il a 2 ans, le premier, il en a 8, et forcément, je suis le rôle modèle, et ils veulent faire la même chose, et moi je leur dis, mais non, mais fais un autre sport, va essayer. Mais
alors, écoute, moi, on habite en montagne, donc en fait, j'ai envie de te dire, faire du ski, c'est normal et c'est naturel, et ça aurait été vraiment dommage de pas profiter du territoire qui nous accueille pour ne pas faire ce sport. Et donc on a toujours dit à notre fille de faire du ski, d'atteindre au moins un niveau minimum qui lui permet d'avoir le BE de monitrice de ski. Ensuite, honnêtement, je l'ai pas du tout poussé, je l'ai même limite presque freiné, je dirais, parce que je trouve que le système est hyper cruel, et que il y a beaucoup de déchets, et évidemment j'avais pas envie de voir ma fille vivre des moments durs comme ça. Mais ce petit chameau, elle en a fait qu'à sa tête, et c'était bien fait pour moi, parce que depuis qu'elle était petite, je lui disais, suis tes propres traces, même ne suis personne, en tout cas ni ton père ni ta mère. Et elle a réellement décidé, en fait, de s'engager dans le ski cross elle aussi. Okay. Et elle a fait des bons résultats puisqu'elle était championne de France, etc. Mais malheureusement, elle a enchaîné quasiment 3 hivers blancs puisqu'elle s'est fait consécutivement 3 croisés. Donc ça a été une période extrêmement difficile parce que elle l'a fait à l'âge de 16, 17, 18 ans. Donc c'est un âge où en fait logiquement tous les possibles s'ouvrent et tu rêves en grand. Et elle, en fait, elle a dû enterrer ses rêves assez violemment. Et j'ai trouvé que et donc ça a été vraiment compliqué, mais ça a fait d'elle une magnifique petite jeune fille. Et je suis admirative de sa force et de sa résilience déjà toute petite comme ça et elle est restée lumineuse, elle est restée enjouée, elle a pris ce coup dur, elle l'a digéré, elle l'a transformé en quelque chose de positif et je suis trop fière d'elle en fait.
C'était pas possible peut-être de lui proposer un autre sport un peu moins traumatisant pour les genoux ou peut-être pas l'envie.
Tu sais, tu choisis enfin, pas dur, ta hein. passion. Hein. Ouais, c'est vrai. Et quand elle m'en parlait, quand elle m'expliquait pourquoi elle aimait le ski cross, si tu veux, moi, je le ressentais dans toutes les cellules de mon corps. Et ce qu'elle me disait, je le vivais. Et
elle te disait quoi, par exemple?
Ben, les sensations, les décharges d'adrénaline, ces sensations d'appui, de vol, de quand tu fais un beau dépassement. Ouais, le ski cross, quoi. Elle m'expliquait le ski cross et je voyais ses yeux briller et je me disais, mais ben fonce, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ouais, c'est voilà. Cool.
Mais bon, c'était dur, hein, j'avais peur pour elle, hein, c'est vrai, mais en même temps, je me disais, fais-lui confiance. S'il y a une preuve d'amour à avoir, c'est ça, c'est lui dire, je crois en toi, vas-y.
Ouais. Ouais, mais c'est le. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire en tant que parent, tu vois, c'est sans pousser, c'est juste faire confiance, quoi. Tu vois, et c'est quelque chose sur lequel je médite beaucoup, de me dire, de mettre la barrière effectivement entre pousser, encourager, presque pas forcer, mais au moins faire prendre des valeurs d'un peu de résilience et de pouvoir réessayer, et aussi de faire confiance à son enfant et de pouvoir le laisser s'exprimer et de vivre ses rêves, quoi. Ça, c'est sûr.
Absolument, absolument, c'est primordial.
Et c'est pas facile, c'est pas toujours facile parce que des fois on se protège soi-même en tant que parent. D'ailleurs, c'est marrant parce que on se protège mais on se projette aussi. Ça peut avoir tendance et les deux, oui. Il faut éviter de les faire.
Oui, non, il faut bien être lucide par rapport à ça. On fait pas un enfant pour se réparer soi-même, quoi. Ouais. Et moi, mon père un jour m'a dit un truc qui m'a vachement bouleversée. Je l'ai gardé en tête parce que pour le coup, je suis partie assez tôt de la maison, hein, et il m'a dit, mais de toute manière, on élève son enfant pour qu'il quitte le nid et qu'il s'envole. Et moi, je suis contente. T'es partie tôt. Ça veut dire que j'ai réussi ma mission, même si j'aurais aimé te garder à mes côtés. Et j'étais là, oh, c'est terrible. Mais en même temps, je me suis dit, voilà, il faut que j'ai cette même amour, en fait, enfin, cette même volonté de donner toutes les armes à ma fille pour que, en fait, elle ait confiance en elle et qu'elle puisse s'envoler. Et ma mission, elle est là aussi.
Ok, ouais, mais t'as raison. Super chouette. Bon, écoute, j'aime beaucoup en tout cas ta vision de la parentalité et merci de m'avoir transmis ces bonnes ondes et ces beaux messages. Je vais changer complètement de sujet et notamment venir un petit peu peut-être au sujet des X Games. Tu me disais tout à l'heure que toi, t'avais découvert cet univers qui est complètement fou, qui a l'état d'esprit un peu américain. Et là, en ce moment, tu commentes les jeux, tu vois. Et c'est un peu, les gens mettent beaucoup un peu, notamment plus peut-être plus sur la partie hivernale, mais on met beaucoup en opposition parfois ces deux compétitions ou ces deux événements. Toi, t'as fait les deux. Tu fais partie des rares sports qui ont pu vivre les deux. Et il y en a pas tant que ça au final.
Ouais, le skate maintenant a pu le faire. Ouais. Snowboard. Ouais.
Et le BMX aussi dans l'été, je crois. Ouais, ça va arriver au jeu. Mais il y en a vraiment pas beaucoup, tu vois. C'est quoi, selon toi, enfin, qu'est-ce que t'apporte l'un que ne t'apporte pas l'autre? Alors, c'est pas une question facile parce que toi, tu es une enfant des deux, mais est-ce que tu penses pas que, ouais, justement, il y a un vrai sujet de.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
D'avoir au contraire deux événements bien distincts et qui nourrissent deux valeurs différentes, quoi.
Ah mais alors complètement, voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est dommage de mettre en opposition deux choses qui se complètent en fait. Les X Games déjà, ça a lieu tous les ans. Ouais. Les X Games, c'est un produit télé, hein, qu'on soit bien clair. C'est ESPN qui a accouché de cet événement sportif. Ça a aussi montrer bah voilà le côté, on en parlait tout à l'heure, le côté chaud, le côté dépassement de soi, mais dans une espèce d'atmosphère un peu d'arène, tu vois, OX
c'est la fête aussi, c'est un événement,
c'est la fête, ouais c'est ça. Et à côté de ça, tu as les jeux. Moi, je suis une fan absolue des jeux parce que j'aime le sport et j'aime son histoire. Et que les Jeux Olympiques, c'est l'histoire du sport étroitement liée, j'ai envie de dire, avec l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes mots. Et en fait, si tu veux, les deux arrivent avec une aura très différente. Il y a quelque chose de nouveau qui pète, qui claque. Et puis, il y a quelque chose d'assez ancestral, d'institutionnalisé. Et en fait, c'est pas les mêmes publics qui regardent. C'est pas... tu vois, pour moi, c'est impossible de les comparer. En fait, c'est juste deux énormes événements magnifiques à vivre. Heureux sont ceux qui ont pu les vivre. Et voilà, quoi.
Ouais, c'est sûr. Mais je suis très d'accord avec toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tout à l'heure, tu l'as mentionné, mais j'ai l'impression que les X Games étaient plus dans ta nature, tu vois, quand tu as dit, ouais, j'ai découvert ça, c'était le show et tout, j'étais dans mon élément et tout.
Ouais.
Est-ce que tu penses pas quand même que, tu vois, les jeux pourraient un peu aussi s'en inspirer, peut-être de rajouter peut-être une part un peu de folie, tu vois.
Ils essayent de se rajeunir et c'est normal parce que les jeux doivent aussi. Tu te rends compte, l'âge de cet événement, c'est un truc de dingue. Donc en fait, ils évoluent et puis ils se calquent quand même sur l'évolution des sports en société. On va voir là beaucoup de sports qui rendent des nouveautés du côté été. Bon, on a vu le skate, mais là, on va voir avec Paris 2024 le breakdance, le surf, enfin l'escalade. Enfin, il y a un vrai vent de fraîcheur du côté de l'hiver. On va enfin voir rentrer le ski alpinisme qui est vraiment qui incarne toute une population amoureuse de la montagne et des sports de neige et qui n'était pas représentée au jeu. Là enfin justice sera faite et on verra du ski alpi pour Cortina. Écoute, voilà. Donc moi, je trouve que les jeux, alors même si c'est une grosse institution, ils essaient quand même de se rajeunir. Il y a de plus en plus aussi d'épreuves en équipe mixte. Il y a vraiment une grosse volonté de transmettre cette valeur d'équité entre les hommes et les femmes.
Et tout ça, c'est
des beaux messages et pour ça, c'est vrai que beaucoup de gens sont critiques envers les jeux, mais il faut quand même leur rendre ce qu'il y a de bien, quoi.
Et
côté X Games, c'est génial parce que c'est presque un peu les sports urbains, mais en attendant, ça fait rêver des gamins, ça les amène dehors, ça les décolle des écrans, et voilà, ils mettent le nez dehors, il y a des interactions, des dépassements de soi, des vraies satisfactions, parce qu'ils ont vu des personnages hyper inspirants, peut-être plus faciles pour eux de s'identifier, et en fait, tout ça, même si c'est par des voies différentes, ça va dans la même direction, et c'est cool, quoi.
Bon bah trop chouette, et je vois que tu maîtrises parfaitement ton sujet, donc je comprends aujourd'hui qu'effectivement tu présentes les jeux du coup avec Eurosport. Et d'ailleurs je suis curieux de savoir comment est-ce que c'est venu, est-ce que c'était toi une envie de ta part sur ta reconversion, on pourra en reparler, mais t'as fait un petit voyage après avoir raccroché les skis. Comment est-ce que tout ça s'est fait? J'ai l'impression, bon, t'as dû vivre des émotions tellement fortes en tant qu'athlète, tu vois, et tu vois, il faut essayer d'en vivre après. Mais comment est-ce que t'as pu raccrocher les skis, et comment c'est arrivé que tu sois là aujourd'hui pour commenter ces derniers jeux?
Ouf. Alors, comment j'ai raccroché les skis? J'ai raccroché parce que tout simplement, je sentais que j'étais à la fin de mon histoire. Et même si elle était sublime et trop belle, ben c'était temps pour moi de mettre la flèche ailleurs, en fait, tout simplement. En même temps, clôturer un chapitre qui représente 15 ans de ta vie, c'est pas rien. Du coup, tu l'as évoqué, c'est vrai que moi j'ai pris la décision en fait de partir l'hiver d'après. C'est pas anodin, tu vois, j'ai vraiment coupé la saison de ski, et je suis partie avec mon sac à dos 6 mois en Amérique du Sud, me balader. Et c'était un rêve, une envie que j'avais, et tu vois, ça a été vraiment génial, parce que ça m'a vraiment permis de poser ce costume d'athlète, de me balader en loin finalement de mon univers, de mon petit monde où finalement j'étais très à l'aise et où j'aurais pu très vite retomber sur mes pattes, mais peut-être où j'aurais été un peu coincée avec toujours bien de bienveillance en fait, mais coincée un peu dans ce statut de la sportive. Là, je sais ce que j'incarne, je sais ce que j'ai fait, je connais mon palmarès, mais pour autant, il y a vraiment eu une histoire de mue que j'ai pu faire en fait pendant ce voyage de 6 mois en Amérique du Sud, une mue par rapport à moi-même, mais aussi une mue du regard des autres qui m'ont pas enfermée dans cette simple facette que j'étais en fait. Et puis, pour revenir à Eurosport, et ben écoute, j'ai juste eu l'énorme chance qui pense à moi via ma pote Clémence Grimald. En fait, c'est elle qui m'a appelée. J'ai été mise en relation avec Eurosport, et c'est une expérience extraordinaire. J'adore ça. Pour l'instant, c'est juste le temps des Jeux Olympiques. Est-ce que ça va déboucher sur autre chose? Ben, j'en sais rien, hein, c'est eux qui ont les cartes, mais en tout cas je profite à fond là chaque jour d'être ici, de découvrir ce métier, ces coulisses, ces passionnés de sport, mais qui, grâce à qui en fait, qui sont vraiment le trait d'union, hein, entre les sportifs et le grand public, et leur poste est primordial en fait, et voilà, et je suis hyper hyper contente et de ce cadeau et de vivre cette expérience.
Eh ben écoute, ça s'entend, comme je te le disais, en tout cas sur les du peu de que j'ai pu entendre de toi, ça sent que t'es épanoui et que tu prends cette mission hyper à cœur. Donc et d'ailleurs j'en profite, parce que effectivement peut-être être commentateur sportif, c'est peut-être un rêve de gamin que j'ai pu avoir. C'est quoi être un bon commentateur ou une bonne commentatrice pour toi? C'est quoi les qualités qu'il faut? Et est-ce que toi t'as cherché à les amplifier, ou est-ce que t'as essayé de travailler avant de commencer cette mission?
Alors non, je savais même pas trop par où attaquer, parce que j'avais vraiment aucune idée de ce qui m'attendait et de qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait. Du coup, je pense qu'un bon commentateur, déjà, c'est un bon binôme. Je trouve que c'est toujours plus sympa quand on est deux.
Ouais.
Moi là, j'ai la chance d'être associée à Florian Pinjon, qui est un journaliste vraiment au top. Sincèrement, j'ai vraiment gagné à la loterie sur ce coup-là. Et du coup, il est un petit peu la référence. Tu vois, il connaît le nombre de coupes du monde, qui a fait quoi en quelle année. Tu vois, moi ça, c'est vrai que j'ai pas tout en tête. Et lui, Flo, vraiment, il a tout ça. Donc moi, je m'appuie en fait sur cette base de données. Et en fait, ce que j'essaie de transmettre aux gens, c'est peut-être toute la partie un peu cachée de l'iceberg. Tu vois, peut-être les sensations. Peut-être qu'est-ce qui se passe quand on est dans la chambre d'appel avant de mettre ses mains sur les poignées de départ. Qu'est-ce qu'on peut ressentir, le petit détail technique, en essayant de le vulgariser pour que tout le monde comprenne en fait. Donc je vais pas partir dans des grandes théories comme ça de A plus B MC2 au carré. Mais vraiment de, tu vois, de donner des petites clés de, bah tiens, pourquoi ça a freiné, pourquoi ça a accéléré, pourquoi ci, pourquoi ça, les prises de risque, les pas prises de risque, voilà. Et je pense que après, j'ai envie de te dire que c'est difficile d'être autre chose que soi-même. Donc en fait, j'essaie juste d'être cette passionnée de ski, cette amoureuse des athlètes et d'être un, bah voilà, je fais partie de cette interface, ce trait d'union entre le monde du sport et les auditeurs et j'essaye de retransmettre ça le plus fidèlement possible en saupoudrant de compréhension, en mettant de la profondeur, en mettant un petit peu du champ pour que les gens se rendent compte de toute la complexité et de la beauté que ça peut être de construire une venue sur les Jeux Olympiques et encore plus une médaille.
Ok, mais écoute, j'adore ce que tu me dis. C'est vrai que j'avais jamais verbalisé comme ça d'être le trait d'union entre effectivement les athlètes et le grand public et de faciliter leur compréhension et d'essayer de transmettre, tu vois, toutes ces émotions qui peuvent les parcourir et tous ces détails qu'on voit pas toujours en fait quand on a un œil non initié. Donc c'est très bien dit. En tout cas, tu résumes très bien ta mission. Je sais pas si t'as été briefé pour ça, mais
même plutôt, pas.
mais en tout cas, ouais, j'avais pas du tout vu comme ça. C'est très très intéressant. J'aime beaucoup ta vision, tu vois. Donc comme quoi, avoir une vision claire et originale de ce qu'on fait, ça permet aussi de bien le faire. Donc je suis très curieux. Et ouais, c'est une activité que tu te ferais continuer à faire encore longtemps.
Écoute, alors là, j'ai pas du tout la main là-dessus, tu vois. Honnêtement, c'est si vrai, on me propose vrai. D'empiler, je le ferai avec grand plaisir parce que c'est vrai que j'ai bien aimé l'exercice. Ensuite, pour l'instant, je le vis comme une parenthèse, comme un cadeau qu'on m'a fait. Peut-être qu'on me retendra la perche que dans 4 ans, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas les cartes en main là pour décider de l'être ou pas, enfin de continuer dans cette voie ou pas, tu vois. Donc
Il y a beaucoup de hasard. Il y a aussi, tu sais, sur les droits télé, oui, tu peux changer. Je sais que j'en parlais un peu avec Fred Weiss, lui qui commentait le basket et il dit, moi, mon employeur, ils ont perdu les droits télé. Du coup, du jour au lendemain, j'ai plus mon job. Et ça se joue à peu. Et c'est vrai que, ça dépend pas que de toi. Mais, en tout cas, écoute, je touche du bois et moi, je le dis ouvertement et publiquement. Et ça sera écouté par 10 000 personnes ou un peu plus. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas les passages que j'ai pu écouter avec toi. Et d'ailleurs, tu vois, tu as parlé d'émotion et je serais très curieux. Le passage que j'ai vu justement avec toi, c'était quand Perrine Laffont est passée juste à côté de sa médaille. Je l'ai interviewée. Quand je l'ai interviewée, je crois qu'elle avait déjà été trois fois championne du monde et je crois qu'elle avait... Et là, on l'a vu vraiment très triste. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, le monde du haut niveau est petit et je me demandais, est-ce que toi, il y a des choses que, vu que c'est des gens que tu connais, que tu peux pas forcément dire ou que tu te retiens de dire, ou quelle est la connexion en fait émotionnelle que tu as avec les athlètes? Moi j'avais les larmes aux yeux avec Perrine parce que j'avais adoré l'épisode que j'avais fait avec elle et j'étais à fond dedans et je l'ai vu passer à côté d'un rêve. Et tu vois, à ta place, j'aurais pas pu m'empêcher de verser une larme. Donc, comment est-ce que tu gères un peu avec ces émotions et avec ces amitiés que tu vois tous les jours?
Écoute, oui, alors en plus avec Perrine, pendant 3 ans, on a eu le même préparateur physique, donc on s'est souvent croisés au centre national d'entraînement à Albertville. Okay. Et voilà, c'est pour ceux qui ont eu la chance de la croiser, c'est vrai que c'est une petite pépite. Elle est super solaire, elle est super nature. C'est une belle gosse, quoi, et avec une belle âme. De l'avoir échoué au pied du podium, ça a été très très dur. J'ai essayé de trouver les mots que les gens en fait comprennent, qu'on soit pas non plus dans la pitié, tu vois, c'était vraiment pas l'idée, qu'on soit pas non plus dans la mise au pilori parce qu'elle était incroyablement attendu et on aime aussi quand même des fois couper les têtes. J'ai essayé d'être juste quelqu'un qui, voilà, encore une fois, aime le sport, aime ses athlètes qui prennent le risque de s'aligner, d'avoir le courage de dire bah moi, vous savez quoi, je vais tout faire pour être championne olympique. Et juste de l'annoncer, de prendre le départ, de le faire, ça mérite tout notre respect parce que bah faut avoir le courage. Et il y a rien à redire quand tu vois que la personne a essayé à fond. Et après, ben voilà, ça, son maximum ce jour-là était en deçà du maximum de ses adversaires. C'est juste le sport en fait. Et ouais, après, évidemment, t'as envie de la prendre et de lui faire un câlin, quoi. Mais ouais,
bien sûr, non. Mais en plus, avec ce qui lui est arrivé au mois de décembre, avec sa chute, où je pense, enfin, tu vois, j'avais vu les images bien après coup, mais ça faisait super peur et de se relever aussi vite. T'as envie que, enfin, moi, j'avais envie pour elle qu'elle rebondisse avec une belle image pour pas, tu vois, qu'elle puisse se relancer au plus vite. Mais bon, c'est aussi, tu vois, les grands champions se font toujours un peu dans l'adversité. Et t'as vécu ça, toi aussi, tu vois, les déceptions. Et c'est comme ça que ça crée un peu l'histoire aussi et que ça fait, que ça donne envie de rebondir, quoi.
Absolument. Et puis tu sais, c'est ce que je disais justement avec Perrine, on a échangé là-dessus. Et il y a, alors je me souviens plus le nom de cet art japonais, mais c'est absolument trop génial la philosophie. En fait, au Japon, quand les poteries de porcelaine se brisent, il y a un art pour les réparer où on vient en fait faire les joints en or ou au moins en métal, mais bien souvent en or. Et en fait, cette poterie brisée, en fait, prend toute sa valeur, pas parce qu'on a mis de l'or, mais surtout parce que d'un seul coup, cette cicatrice raconte une histoire, raconte une émotion, raconte une réparation. Et en fait, c'est ce qui donne vraiment toute la valeur et le fait que cette pièce soit unique. Et en fait, j'ai envoyé ce petit message à Perrine parce que c'est exactement ça. Voilà, Perrine, c'était une porcelaine ciselée magnifique, une machine de guerre. Là, elle s'est brisée, mais aujourd'hui, son travail, c'est de se réparer et ses cicatrices, son histoire, seront sa force demain.
Ouais, c'est sûr. Mais j'en suis certain. Ouais, j'en suis certain. Mais en tout cas, voilà, on touche du bois pour elle. On croise les doigts. Je suis sûr que elle a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles pages du sport à écrire.
Oui, elle est toute jeune.
C'est ça. En fait, on se rend pas compte parce que quand on regarde son palmarès, elle a déjà une médaille d'or, 3 ou 4 fois championne du monde, et du coup, on se dit.
On parle de quelqu'un qui a 24 ans.
Exactement. C'est incroyable.
Elle sera à son apogée dans 4 ans. C'est ouais. Logiquement, les courbes physiologiques, c'est ça, quoi.
Ouais. Mais écoute, bon, on n'est pas encore devin, mais c'est, franchement, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Peut-être dernière question. Après, j'ai des petites questions pour la fin, mais cette équipe de France, tu vois, elle réussit super bien. Il y a quelques personnalités qui surplombent, hein, notamment Quentin, tu vois, qui est absolument lunaire. Qu'est-ce qui fait que la magie a pris, tu vois, hyper bien dans cette équipe de France. Moi, je la trouve rayonnante, cette équipe de France. Toi, tu le vois un peu un peu plus de l'intérieur. Tu peux échanger un peu plus avec eux. Est-ce que toi aussi, tu trouves un peu cette équipe de France un peu magique cette année?
Alors, en fait, si tu veux, oui, c'est vrai qu'il y a un magnifique état d'esprit, qu'il y ait une médaille ou pas à la fin. C'est vrai que les Français nous ont vraiment éblouis par leur engagement et leur implication, vraiment, et ils sont en ça vraiment admirables. Il y a plusieurs choses, en fait, qui créent vraiment cet esprit de famille, cet esprit bleu. On a parlé avant que tu branches la caméra, on a parlé de Sébastien Foucras et des étoiles du sport. C'est un outil, c'est une réalité qu'on a ici en France qui est unique et qui clairement crée des liens intergénérationnels et interdisciplinaires et qui nous nourrit tous. Vraiment. On a aussi, avant chaque Olympiade, ce qu'on appelle des stages pré-olympiques qui nous aident en fait à nous connaître, à créer des liens et de développer cet esprit d'équipe. Après, on les critique souvent, mais tu vois, les réseaux sociaux, ça permet aussi de se suivre les uns les autres, de s'envoyer des petits messages, de rester en contact, même si on est séparés, etc. Et tout ça crée une dynamique hyper positive. Et enfin, la spécificité cette année, c'est que pour la première fois, les Paralympiques et les Olympiques sont réunis sous la même bannière, sous le même symbole. Et ça, je crois que les symboles, c'est très, très puissant. Et je crois que celui-là, il a aussi donné un regain d'énergie, d'envie et de fierté à toutes nos équipes nationales.
Ok. Bon, bah, trop cool. on sent que t'es cocorico. Hein.
Mais bien sûr, on peut être fier. On a des anciens, des jeunes, on a des médaillés, on a des gars qui, des nanas qui se sont déchirés, qui rentrent bredouille. Mais ils ont montré qu'ils étaient des personnes, fortes et inspirantes. Et bien sûr qu'on peut, je suis fan d'eux.
on peut que être fan d'eux, ouais, c'est sûr. Mais écoute, trop chouette. Merci de ces belles paroles en plus. Franchement, j'espère qu'on leur transmet de bonnes énergies, tu vois, en parlant un petit peu de ça d'eux. L'heure arrive et du coup, j'ai les petites questions de la fin. Tu vois, c'est un petit peu les questions. Mes copains les appellent les questions Canal Plus parce que c'est un peu. On peut répondre du tac au tac, mais on peut aussi y répondre et creuser un peu. D'ailleurs, ça aborde souvent des sujets intéressants. La toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi.
Une bonne journée, c'est une journée qui t'a surprise, qui t'a rempli de petits trésors que tu as su collecter tout au long de ta journée. Et c'est une journée qui t'a mis le smile.
Ah, très cool. J'aime bien cette définition. Très rare en plus.
Ah bon?
mais c'est vrai. Je vois beaucoup de. Il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui aiment bien mentionner un peu plus la routine. Tu vois.
Voilà,
je vais m'entraîner, j'ai mon petit déjeuner, je vois ma femme, je vois mon compagnon, et puis après je fais ci, et puis après je fais ça. Et toi, t'as mentionné la surprise, donc voilà, une personnalité différente, mais c'est cool, très chouette. C'est quoi le plus beau souvenir de ta carrière? Le moment où t'as le plus vibré?
Écoute, waouh, il y en a plein. Mais je dirais que le plus beau, c'est sûrement mon titre de championne du monde en 2007, où en fait je gagne et derrière moi il y a Meryl Boulanger, une autre française. Et on a beau faire un sport individuel, le fait de le partager, ce podium, de faire retentir la Marseillaise et tout, c'était une émotion très 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 forte.
Ouais,
et on était les deux, quoi. Enfin, on était ensemble et c'était chouette.
Très cool. Vous êtes amis, proches?
Ouais. Alors là, la vie fait que on se voit moins, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, vraiment beaucoup, et que j'ai dans mon cœur. Et on a vécu des moments extraordinaires ensemble, et ça, j'oublierai jamais.
Ok. Très cool. Est-ce qu'il y a une phrase, un peu comme un mantra, que tu te répètes souvent pour te donner de la force et te rappeler qui tu es et quelles sont tes valeurs?
Non, mais il y a une phrase que j'adore, elle est connue, hein, mais c'est faut viser la lune, au pire on atterrit parmi les étoiles. Et ça, j'aime bien en fait. Et il y avait un poème dont j'ai oublié complètement l'auteur, mais ça s'appelle Les Conquérants. Et j'adore cet esprit pionnier. J'adore, tu vois, on parlait en tout début d'interview de suivre sa route, de suivre sa voie. Et il y a de ça dans ce poème. Il y a une énergie un peu presque vitale à mettre un pied devant l'autre. Et ça, je crois que ça m'a inspirée aussi dans ma carrière.
Ok. Bah, écoute, très chouette. Écoute, je le note. Je mettrai en descriptif de l'épisode le lien vers ce poème, Les Conquérants, et puis je retrouverai l'auteur. Attends,
merci.
Très chouette, très chouette. Et effectivement, moi aussi, j'aime beaucoup cette phrase, viser la lune, au pire, on arrive dans les étoiles. Et c'est vrai que ça fait rêver. Et effectivement, il faut jamais limiter son ambition. Je pense, faut pas avoir peur de rêver. Des fois, on s'empêche de
mais
rêver.
Mais c'est ça. Tu vois, s'il y a un truc là qu'il faudrait que s'il y a un slogan, tu vois, que j'aimerais marteler, c'est stop l'autocensure. Ouais. Arrêtons de s'autocensurer, quoi. Mais mes feux. Souvent, on se coupe les ailes tout seul. Ça, c'est trop dommage.
Ok. Mais je suis bien d'accord. Attends, je crois que j'ai retrouvé l'auteur des Conquérants. Est-ce que ce serait pas José Maria de Heredia?
Ah, c'est ça, Heredia. Absolument, c'est ça.
Super. Bon, écoute, merci beaucoup. Je le lirai. J'irai avec grand plaisir, tu vois. Je suis un grand lecteur. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté, que j'ai pas lu une bonne, un beau poème.
Bah, tu me diras ce que t'en penses, alors.
Avec grand plaisir. Est-ce que tu avais une idole? Ou un idole, ou est-ce qu'il y a un ou plusieurs athlètes qui t'ont un peu qui ont inspiré ton enfance ou qui t'ont donné envie d'aller plus loin?
Écoute, j'ai pas vraiment un idole. Je crois que j'ai plusieurs morceaux de personnes qui créent un espèce d'idole imaginaire parfait. Non, au même titre que je te dis, j'aime bien collecter les petits trésors que la vie nous offre quotidiennement. J'aime bien collecter un sourire, une force, une action, un caractère. Et tout ça, en fait, va dans la même direction, dans une même spirale positive, en tout cas pour moi. Et du coup, j'ai pas qu'une personne, c'est un cocktail.
Ok, très cool. Mais il y a pas de problème. Mais j'aime bien le mot cocktail, ça me parle. Comment est-ce que tu libères la pression quand c'est dans les moments où c'est un peu dur, dans les moments où il y a un peu de stress? Comment est-ce que tu...
Alors vraiment, vraiment, quand j'étais athlète, par exemple au départ, j'avais un peu deux grandes recettes. La première, c'était de me concentrer sur un mouvement technique. Donc je me coupais de l'affect, de tout ce qui pouvait venir un peu parasiter ma concentration, en m'enfermant dans cette bulle vraiment technique. Tu vois, vraiment, je répétais le mouvement, je ressentais les sensations que je devais avoir pour faire les choses correctement. Et l'autre, c'est au contraire, je m'ouvrais complètement, je levais le nez, je sortais en fait de ce départ où l'électricité vibre dans l'air tellement c'est puissant des fois. Et en fait, je levais le nez et je regardais, j'ai la chance de faire un sport d'extérieur, et je regardais le paysage autour de moi, je regardais ces montagnes majestueuses qui régulièrement quand même nous remettent à notre place de tout petit bonhomme. Et je regardais ces arbres, et je regardais ces rochers, et je regardais la pureté de la neige, et je me disais, mais quelle chance j'ai d'être ici. Et finalement, ce petit moment de pression, là, notre petite course là entre nous, à l'échelle de ces montagnes, et à l'échelle de cette nature grandiose, mais c'est que dalle. Voilà. Donc je m'enfermais un petit peu à l'intérieur de moi, soit vraiment je m'ouvrais complètement, mais en tout cas je coupais cette dimension directe si je sentais que la pression était en train de prendre le dessus et que le petit bonhomme stress me tapait l'épaule et venait un peu trop m'enquiquiner.
Ouais.
Alors je le visualisais, hein, je le personnalisais, hein, le stress, et je m'imaginais lui parler en lui disant, tu sais, c'est un peu le pote relou. Alors je lui disais, oui, c'est bon, j'ai compris, t'as peur que je fasse mal, j'ai bien entendu, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Et quand j'arrivais pas à lui fermer son clapet, bon bah voilà, j'avais mes deux échappatoires.
Okay. C'est voilà. Super cool. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup préparation mentale, mais je sais que t'en as fait un petit peu, donc ouais. Et que t'as eu des choses hyper intéressantes à dire là-dessus. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Tiens, allez. On se donne rendez-vous pour l'année prochaine avec grand plaisir. Trop chouette. En plus, en plus, ça donne des super bons tips pour les auditeurs. Donc c'est top. Et effectivement, l'idée d'avoir une encre dans les moments un peu durs, soit une encre à l'intérieur de soi, soit une encre tout dehors pour vraiment sortir de ça, c'est, je pense, un super conseil. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans?
En forme, suffisamment en forme pour continuer à faire des trucs débiles que j'aime, qui me font marrer.
Comme quoi?
Je me vois comme un tour de vélo.
Ah non, mais oui, mais... on n'a pas parlé. Raconte-nous, c'est ton futur projet, là.
Donc... Ouais, mon futur projet, mon futur challenge, en fait, c'est de partir toute seule, et, donc solitaire et autonome, faire le tour de la France à vélo. Donc j'ai 45 jours pour le faire. Enfin, c'est le laps de temps que je m'offre, et il y a un peu plus de 6000 kilomètres, et j'ai pas osé encore faire l'addition des dénivelés positifs.
Et tu roules beaucoup?
Eh ben, j'imagine. Pas énorme. Pas suffisamment, ça c'est sûr. Je sais que j'arriverai pas prête. En tout cas sur le papier, physiquement, voilà, je sais que j'aurai pas assez roulé parce que la saison de ski, parce que les activités professionnelles. Mais c'est pas grave. Tu vois, je sais que ça risque d'être dur, mais c'est pas grave. Je veux y arriver.
Ouais, 130 km par jour, ça commence à faire, tu vois.
Je vais pouvoir mis comme ça, chaque étape est basique. Enfin, tu vois, il y a rien d'incroyable.
Bah, basique, quand même.
Ouais, okay. Non, mais ça va. 130 km, ça se fait. Je veux dire, tu vois, c'est pas un truc de dingue. Là où ça me met quand même un peu la flippette, c'est de répéter ça sur 45 jours. Ouais, okay. Ça j'ai jamais fait. Ça va être une vraie découverte. Et ouh là là.
Mais tu sais, c'est en se lançant des défis comme ça, déjà, il y a deux super vertus. La première, c'est que tu prends confiance en toi, un truc de dingue, et t'apprends des choses sur toi que tu soupçonnais même pas, et c'est tellement enrichissant. Donc, je t'envie un peu.
Mais t'as raison, c'est un voyage dans le voyage. Ouais.
Bon, mais trop bien. Et tu me disais que du coup, tu connais un peu Perrine Fage et que tu lui avais demandé quelques conseils. Qu'est-ce que tu lui as demandé là récemment?
En fait, si tu veux, je vais avoir vraiment besoin de ses conseils par rapport à la préparation de mon postérieur.
Ok.
Non, voilà. Et puis, je sais que c'est une super guerrière. Je vais lui demander justement quels sont ses ressorts mentaux quand elle a l'impression d'être au bout du schnapps et que malgré tout, elle met un pas devant l'autre. Voilà, juste de papoter un peu avec elle, peut-être aussi voir la. Alors là, vraiment sur la préparation du vélo. J'avais envie de lui dire ce que moi j'imaginais et si elle avait des critiques, un retour et son avis, quoi. Enfin voilà.
Ouais, plutôt ouais. Challenger et de lui montrer quelque chose. Ouais. Quelque chose de. Mais écoute, tu pourras si tu veux sur ton vélo, si t'as envie d'écouter.
Je vais t'écouter.
Avec Perrine et tout, on avait passé un super moment. J'avais eu aussi Steven, bien sûr. Ouais. Il y a plus longtemps. Je les aime beaucoup tous les deux. Ils sont tous les deux.
Mais Steven, c'est un peu mon ange gardien là sur ce projet. Hein. Il m'aide beaucoup aussi. Ouais. Ouais.
Trop cool. Ouais, c'est quelqu'un de tellement généreux, tellement sympa. Tu as beaucoup de chance.
Ouais, oui. vraiment. La vie m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires. Et là, Steven est en train vraiment de faire un truc extraordinaire au moment où on se parle, puisqu'il est au cœur du Népal avec son vélo. C'est juste de la folie. Je vous invite à aller jeter un œil sur ses comptes Insta et autres. Et c'est fou. Le truc. Du coup,
j'ai pris rendez-vous avec lui pour son retour et qu'il me raconte tout ça. Donc, puis là, il fait tellement d'aventures par tous les ans, c'est dingue le nombre de projets. Ouais. Donc, on doit se voir dès qu'il rentre. Donc, je t'avoue que j'ai hâte et que je suis ça avec
beaucoup d'attention. Tu m'étonnes.
Trop chouette. J'ai encore deux petites questions, trois pour être tout à fait exact. La première, c'est est-ce qu'il y a un échec ou une erreur qui t'a appris plus que les autres?
Il y a des échecs, en fait. Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais fan des Jeux. Je suis vraiment une amoureuse de cette compétition. Mais je suis une amoureuse éconduite, puisque les Jeux, eux, ne m'ont jamais souri. J'ai à chaque fois échoué aux Jeux Olympiques. Et oui, ils m'ont appris beaucoup. Ils m'ont façonné aussi, ces échecs. En fait, je suis la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai eu à les traverser, en fait. Et voilà.
Okay. Bon, mais qu'est-ce que tu en as tiré de ces échecs et peut-être plus particulièrement peut-être de la quatrième place que tu avais obtenue?
Ouais, alors qu'est-ce que j'en ai tiré? Beaucoup de choses, en fait. Déjà, ça m'a obligée à aller regarder en face ma part sombre. Peut-être ma phase aussi arrogante. Ça m'a obligée à accepter qu'on a beau rêver fort, qu'on a beau avoir tout fait, mais vraiment tout fait. La récompense, elle est peut-être pas forcément au bout du chemin. Et ce qui est important, c'est le chemin. Ça m'a appris aussi que l'important des fois est pas là où on le croit. Moi, j'avais l'impression d'être de mourir, quoi. Enfin, de me faner. J'avais vraiment des. Il fallait que personnellement je me reconstruise parce que ce projet m'incarnait tellement et ce projet d'un seul coup vole en éclats et tu te dis mais qui suis-je ? Mais réellement, ça t'ouvre un gouffre sous les pieds. Et puis finalement, tu te rends compte, avec l'aide du temps, avec l'amour inconditionnel dont on parlait, hein, des enfants qui te regardent sans te juger, si on a la chance d'avoir des amis sincères aussi, en fait, on se rend compte que on est bien plus que ça, hein, ce costume de sportif. Et ouais, je sais pas, plein de trucs. Mais déjà, tout ça, c'était pas mal. Hein.
Ouais, bon, en tout cas, je vois que t'as beaucoup appris sur toi et ça fait plaisir de discuter avec quelqu'un qui se connaît beaucoup et qui a retenu aussi beaucoup de choses de ses échecs. C'est toujours hyper intéressant et hyper inspirant. L'avant-dernière question, c'est de savoir si tu pouvais faire en sorte que tout le monde ait lu un livre ou vu un film.
Waouh.
Lequel tu choisirais?
Alors là, c'est ultra, ultra dur. Tempête sous crâne.
tu lis beaucoup ?
Ouais, je lis pas mal. Alors écoute, tu sais quoi ? Je vais aller vraiment dans les basiques et je dirais Le Petit Prince.
Ah, très bon choix. Très bon choix.
Ouais.
Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Il est dans la bibliothèque. Je vais le reprendre et le feuilleter un peu.
C'est génial de le relire parce que je te jure, c'est comme un oignon. T'enlèves des trucs, tu découvres d'autres choses, tu l'interprètes différemment. Parce que on a grandi, on a changé et tout ça et le livre se vit différemment en fait. Okay. C'est assez ouf.
Génial, génial. C'est vrai que t'as raison, faudrait que je le relise. Et la toute dernière question, Ophélie, c'est un petit peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro et c'est de savoir qui est la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer pour pouvoir parler de tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, de voyage, d'aventure, de oser, de développement personnel, de parentalité, de positivisme.
De la vie, quoi.
De la vie, exactement. Exactement.
Écoute, j'adorerais rentrer dans l'intimité de quelqu'un qui la protège beaucoup. Et cette personne, c'est Amélie Mauresmo. Je la trouve trop, trop forte, quoi. Et elle a fait exploser des plafonds de verre, elle a mis à mal plein de barrières, elle a tout défoncé sur son passage avec une douceur, une force tranquille qui force l'admiration, quoi. Et ouais, j'aimerais bien l'entendre. En plus, je crois que c'est une bonne vivante et tout, donc je la connais pas du tout, mais j'adorerais la connaître plus.
Ok. Eh ben, écoute, j'aurai peut-être une bonne nouvelle à ce sujet-là pour bientôt.
Mais non.
Mais comme c'est dit que j'ai fait beaucoup de tennis et que moi je viens de ce milieu-là, j'ai toujours
t'as
eu peur.
Contacts.
Ouais. En fait, je les ai jamais activés. J'ai toujours eu trop peur de le faire. Et si c'est bête, hein, mais si je devais avoir un seul ou une seule joueuse sur ce podcast, je pense que ce serait Amélie. Franchement,
ouais.
Sans hésiter, pour sa maturité, pour la simplicité avec laquelle elle a balayé plein de choses qu'on pouvait lui reprocher ou tout ce qui lui est arrivé, et en même temps pour son jeu, c'est la beauté de son jeu. Enfin bref, pour plein de choses.
Pour tout, ouais, elle est magique. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Donc écoute, trop cool. Je t'enverrai un petit message si j'arrive à l'interviewer.
C'est gentil. Ouais.
Grand plaisir. Merci beaucoup Ophélie. J'aurais pu continuer cette discussion encore des heures et des heures parce que je me suis régalé, plein de sourires, plein de bonnes ondes et tout, et plein de choses qui m'inspiraient beaucoup dans tout ce que tu as dit. Donc c'était vraiment un immense plaisir de pouvoir échanger avec toi et je te remercie beaucoup pour ta disponibilité.
Bah écoute, c'est moi qui te remercie. C'était un plaisir partagé vraiment.
Et je te souhaite bon courage pour la fin de ces jeux et ce tour à vélo.
Merci,
je vais suivre ça de près. Tu partageras un peu de contenu sur les réseaux, sur ton compte Instagram.
Oui, tout à fait.
Trop cool.
Oui.
Eh ben, écoute, j'encourage tous les auditeurs qui nous ont écoutés à aller suivre ça aussi de près si ça jamais ça les intéresse. Je pense qu'on va rigoler et puis on pourra t'envoyer des petits messages d'encouragement.
Ah oui, j'en aurais besoin.
Salut Ophélie, à bientôt.
À bientôt, ciao ciao, les extraterriens.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.